Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Frères et sœurs, nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, verset 27. Le Christ nous dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » Frères et sœurs, la guerre nous a rattrapés. Nous pensions qu'elle relevait du passé, d'une histoire que l'on considère avec effroi ou admiration, selon les points de vue. Ou encore qu'elle était confinée à des régions lointaines que nous regardions avec commisération. Mais elle est revenue avec fracas dans nos sociétés policées pour nous imposer au début du mois de janvier l'horreur de ces assassinats, le spectacle de ces êtres humains abattus froidement dans une sorte de professionnalisme absurde. Du coup, notre réflexion sur la guerre, à la lumière de cette guerre particulière qui est celle de 14-18, se trouve chamboulée. Elle ne relève plus de la curiosité intellectuelle, mais de la question brûlante pour nous, ici, aujourd'hui. Ces réflexions s'imposent d'autant plus que nous nous retrouvons en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, entre deux fronts. L'horreur terroriste nous révulse et nous met en colère. En même temps, nous voyons combien les événements sont un prétexte pour tous les amalgames, pour tous les rejets de la religion en général, pour tous les refus de Dieu plus particulièrement, pour tous les racismes plus ou moins déguisés. On voit bien combien l'extrême droite, mais aussi les laïcistes ou les anti-religieux, tirent parti des événements, dans le style, je vous l'avais bien dit, pour mettre tous les immigrants en examen, tous les croyants sur la défensive. Alors bien sûr, nous pouvons protester. Nous pouvons battre le pavé dans le froid du mois de janvier pour dire notre refus. De même, nous pouvons dire avec les musulmans que le Dieu dont les assassins se réclament n'est pas celui auquel nous croyons, et que ce Dieu de tueurs n'existe pas et n'a jamais existé. Dans une perspective plus réformée, nous pouvons également insister sur la différence entre Dieu et les images que les êtres humains peuvent s'en faire, en disant que ces images peuvent tranquillement être caricaturées, sans que le Dieu trois fois saint et tout autre n'en soit nullement affecté. Je soupçonne même que le Dieu auquel je crois n'est pas dépourvu d'un certain sens de l'humour. Mais après ces réactions nécessaires sur le moment, il faut préparer l'avenir. Alors que les anciens disaient « Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre », il vaut mieux dire aujourd'hui « Si tu ne veux pas la guerre, prépare la paix ». Il faut réfléchir au sens profond de ce que représente la paix. Et le verset biblique que je propose ce matin à votre méditation peut nous y aider. La paix, la vraie paix, ne saurait être simplement un cessez-le-feu, et encore moins une capitulation sans condition, dont l'humiliation même prépare les guerres futures. Pour que la paix soit vraiment la paix, il a fallu autre chose. Nous savons combien la paix de 1918 fut une paix ratée, un simple intermède dans ce que certains historiens ont pu appeler la deuxième guerre de 30 ans. Ce n'est qu'après 1945 que la paix a pu être construite. Il a fallu que sur les décombres même du Troisième Reich, ordre qui se présentait comme valable pour 1000 ans, un nouvel ordre devienne possible, celui des droits de l'homme, mais aussi celui de la coopération qui offre les moyens économiques à l'ennemi d'hier pour devenir le partenaire, l'ami d'aujourd'hui. La paix, la vraie paix, ce n'est pas la paix de tous les esprits municois qui, comme les faux prophètes dénoncés par le prophète Jérémie, disent « paix, paix » et il n'y a pas de paix. L'histoire nous le montre, il n'y a pas de paix quand il y a démission là où devrait être la fermeté. Là où devrait régner la droiture, exigée justement par le droit. C'est la fausse paix de ceux qui disent « fiche-moi la paix ». La formule de Churchill en 1938 résonne toujours à nos oreilles. Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. Ma sœur, mon frère, ce n'est pas sans raison que le Christ parle de la paix qu'il donne et non pas d'abord de la paix qu'il ordonne. La paix, c'est celle qui nous est accordée. Ce n'est pas celle que nous conquérons de haute lutte, qui laisse toujours un goût amer et qui trop souvent transforme les opprimés d'hier en oppresseurs de demain, réglant leurs comptes, les armes à la main, incapables de distinguer la justice et le droit de la vengeance. Peut-être que fondamentalement, nous sommes incapables de faire la paix. Nous avons développé au cours de l'histoire de nombreuses stratégies très élaborées pour faire la guerre. Nous n'avons pas de stratégie pour faire la paix. Les guerres que l'Occident a menées depuis 1991 le montrent amplement. Où se trouve la paix en Irak, en Libye ou en Afghanistan? Nous arrivons à vaincre des ennemis. Nous ne pouvons pas imposer la paix, sauf peut-être celle des cimetières. Alors qu'est-ce que c'est que cette paix que le Christ nous donne? Le Christ qui parle et qui donne sa paix est le Christ crucifié. Le crucifié est celui qui prend sur lui la violence des humains. Au début de notre évangile, celui de Jean, il est question de cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, ce verset pose une question de traduction. Les Allemands disent « Christe du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt ». Christ, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Et en français, nous disons Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et manque de peau pour les amateurs de traduction exacte, les deux traductions sont justes. Du moins, c'est ce que j'ai appris, il fut un temps. Le péché ne peut être ôté qu'en étant porté. Le péché du monde ne se supprime pas d'un coup de baguette magique et notre Dieu n'est pas un sorcier. Le péché du monde ne se supprime pas par télécommande et notre Dieu n'est pas un geek et nous ne sommes pas dans un jeu vidéo. Le péché du monde est surmonté en étant subi. Il faut accepter de s'exposer à la violence pour la surmonter. La passion du Christ, la passion pour la paix, est une longue patience. Notre Seigneur Jésus-Christ est une sorte de paratonnerre de la violence. Il rompt avec toutes les formes de vengeance en acceptant de subir le mal. En même temps, et cela m'a frappé lors d'un récent concert de la chorale du Bouclier, l'Apocalypse de Jean désigne le Christ à quelques versets de distance comme un agneau et comme un lion. D'un côté, il subit le mal dans le silence de l'agneau qui va à l'abattoir. Et d'un autre côté, précisément de cette manière, il remporte une victoire décisive contre lui. Il est le Seigneur triomphant, le Christ libérateur. C'est ainsi que s'ouvre pour nous une sorte de troisième voie, au-delà de la lâcheté et de la vengeance. La vengeance n'a pas surmonté la guerre dans le passé et rien ne fut plus destructeur que la formule « l'Allemagne payera ». Aujourd'hui, elle ne surmonte pas le terrorisme, mais au contraire le nourrit. Elle suscite une haine de l'Occident qui se retrouve dans la signification même de la secte assassine du Nigeria, Boko Haram. Les mots signifient « l'Occident est impur ». Il ne faut jamais oublier que l'intégrisme musulman est une conséquence de la colonisation. La lâcheté non plus ne surmonte pas le terrorisme, car elle renonce à défendre des aspects essentiels de notre vivre ensemble, comme la liberté d'expression et le droit à la dérision, qui vont jusqu'au droit au blasphème. Oui, la paix véritable ne consiste pas à se regarder en chien de faïence à travers du fil de fer barbelé, mais à aller à la rencontre les uns des autres. Nous en avons une belle image à Strasbourg, à l'Orangerie, devant le Parlement européen. En joguant, nous y croisons Pierre Pflimlin, cet ancien ministre, maire de Strasbourg et premier président du Parlement européen. Il a la tête nue, il a une démarche décidée, celle qui relève de l'initiative courageuse, et il tend la main. N'oublions pas que ce geste banal, à l'origine, devait montrer que l'on ne porte pas d'armes. Flimelin, justement, a confié un jour que dans sa vie, il n'y avait eu qu'un seul véritable miracle, la réconciliation franco-allemande. Nous savons largement combien la haine peut se transmettre de génération en génération. Regardez en ex-Yougoslavie, une chape de plomb pendant 50 ans, et après la haine qui recommence. Le fait que, exceptionnellement, deux peuples puissent aussi se réconcilier relève de l'extraordinaire. Cela vaut également si nous savons, si nous éprouvons au quotidien, que cette réconciliation reste une tâche sans cesse à accomplir. C'est Flimelin aussi qui disait que la contribution à cette réconciliation était la seule manière pour nous, les Alsaciens, de nous réconcilier avec nous-mêmes. Voilà une identité, une tâche, une vocation autrement dynamique que les Knepfle, le Schnaps et les Bredele. Oui, la vraie paix dans la rencontre signifie s'exposer à autrui et donc accepter d'être vulnérable. Ce n'est pas sans raison qu'après avoir parlé de la paix qu'il offre, Jésus parle de la crainte qui est à bannir. La crainte qui est à la base du surarmement qui évite peut-être la guerre, mais ne prépare sûrement pas la paix. C'est la crainte qui nous pousse à considérer chaque être humain comme un ennemi potentiel, à garder le poing fermé, plutôt que d'ouvrir nos mains. Cette paix signifie entrer en dialogue avec autrui. C'est pourquoi il faut perpétuellement relire la première mention du commandement de l'amour dans le livre des Lévitiques. L'amour, c'est pas tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ce que nous lisons, c'est les phrases suivantes. « N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Avec insistance, il y a d'abord question de reproche. Ce reproche mutuel est essentiel pour construire la paix. Après l'injonction de faire reproche, sont écartées la vengeance qui poursuit la spirale de la violence jusque dans l'éternité, la rancune qui stocke la violence dans un placard avant qu'elle ne nous éclate à la figure, le fait de prendre sur soi le péché, c'est-à-dire de simplement encaisser et subir le mal d'autrui. Pour faire reproche, tu feras reproche, littéralement traduit. Et l'auteur biblique conclut, c'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas la paix lâche que l'on fiche, c'est la paix exigeante que l'on donne, que l'on accorde. Ainsi, il n'y a pas de paix véritable sans disposition à aller au-devant de ceux qui nous dérangent, qui n'entrent pas dans l'ordre tel que nous le rêvons. Un autre détail dans un autre texte biblique nous l'indique. Quand Paul stigmatise les désordres de Corinthe, il ne dit pas que Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit, je cite, « Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Il est le Dieu de cette paix qui rassemble, au-delà, bien au-delà de ceux qui se ressemblent, bien au-delà de ceux qui font partie du monde clean tel que nous le rêvons et essayons malheureusement de le réaliser, en excluant soit les Juifs, soit les musulmans, selon les époques et les partis pris. La paix, ce n'est pas une idéologie d'État qui uniformise et contraint, refoulant toutes les autres identités. C'est le multiculturalisme, la coexistence des communautés, et non un communautarisme national. Frères et sœurs, malgré ce qui s'est passé début janvier, je ne crois toujours pas à un choc de civilisation entre l'Occident et l'Islam. Ce sont les extrémistes de tout poil qui essaient de nous le faire croire. Mais nous devons entrer ensemble dans le dialogue exigeant qui éloignera toute menace de guerre, qu'elle soit à grande échelle ou sous la forme du terrorisme. C'est sûr, dans ce dialogue exigeant, au sujet du vivre ensemble dans notre société, nous avons des reproches à faire et des reproches à entendre. Bien sûr que je vis très mal la manière de se comporter avec les femmes dans le monde arabo-musulman. Bien sûr que je souffre avec mes sœurs et mes frères coptes en Égypte, et avec d'autres minorités chrétiennes en terre d'islam. Et je pense sérieusement qu'il faut que l'islam réfléchisse au sujet de ses propres fondements pour voir comment il peut être encore mieux fidèle au meilleur de lui-même. Mais j'ai aussi des reproches à recevoir. Quel est l'espace que j'offre dans ma société à une spiritualité musulmane? Les caves dans les banlieues délaissées de mes villes? Puis-je vraiment dire à un jeune immigré dans un collège ou dans un lycée que s'il travaille bien, l'ascenseur social fonctionnera pour lui et que toutes les carrières lui sont ouvertes? Il n'y a pas de paix véritable sans justice. Et comme protestant, il faut que je l'entende aussi. Est-ce que ma spiritualité n'est pas devenue tellement sage, tellement fade, qu'elle n'est que l'avant-dernière étape avant l'occultation de Dieu dans mon existence et dans ma société? Ne suis-je pas tellement adapté, tellement conforme, tellement grisâtre, que le monde se rend à peine compte de mon existence? Ou alors je me contente de l'animation joyeuse et bien-pensante de ma communauté locale? Excusez-moi, comme disait Michel Bertrand un jour, ici même, il disait « Quand je dis Dieu est mon bouclier, il n'y a pas de problème. Quand je dis le bouclier mon Dieu, il y a un problème. » Et un gros. Mon frère, ma sœur, dans l'initiative dangereuse de la rencontre et du dialogue avec une identité bien marquée, le Christ te dit « La paix soit avec toi. » Quand la colère te pousse à adopter une position partiale et martiale, il te dit « La paix soit avec toi. » Quand la peur te conduit à prendre les armes sans discernement ou à fuir les formes effrayantes de la violence humaine, il te dit « La paix soit avec toi. » Mais il n'y a pas que l'exigence, il y a aussi la grâce. Peut-être que cette grâce de la paix peut prendre des chemins innocents. Je pense à la fois où les enfants, à l'école maternelle à Montpellier, ont chanté « Joyeux anniversaire ». Ils l'ont chanté en français et en anglais, bien sûr, mais aussi en espagnol, à Montpellier. Mais aussi en allemand, et même en serbe. Celui qui n'est pas un enfant sait combien ces peuples se sont haïs. Alors oui, il faut bien le reconnaître, parfois il est permis de croire que la paix nous est offerte, comme un cadeau, comme un miracle. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Bonne route, bonne suite, bénédiction, avec tout ce que vous avez reçu en parole qui parle de Dieu, du monde et de vous.